Je suis avec le coach de la Team Betclic. Coach, un mot sur le match.
Les joueurs ont validé leur pari, le bon plan du soir est passé.
Eh oui, on vous sent touché là.
Ah, c'est les émotions, oui.
Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC. RMC.
L'Afterfoot.
Côté Mémon.
20h13, on est de retour dans l'after, c'est jusqu'à minuit. À partir de 22h, vous serez avec Gilbert Bribois. D'ici là, on est avec les drôles de dames. On vient de parler assez largement de l'Allemagne. On y reviendra, Polo, avec grand plaisir. Il y a pas mal de choses à dire. Je voulais faire un saut en Angleterre parce qu'entre la Bundesliga et la Premier League, il n'y a qu'un pas, un pas qu'a franchi Erling Haaland, mon cher Julien Laurence. Il a enfin, après un deuxième match, parce qu'il avait un petit peu déçu lors du Community Shield, il a porté Manchester City pour la victoire de City ce week-end, Julien.
Ouais, c'est vrai qu'il les a inspirés contre West Ham hier, dimanche après-midi. Un stade, par exemple, où ils ont eu du mal par le passé. On se rappelle, il y a deux mois, quand ils ont été menés 2-0 après une heure de jeu à West Ham, justement, alors qu'ils étaient au coude à coude avec Liverpool pour le titre et qu'ils auraient pu le perdre à ce moment-là et qu'ils avaient finalement réussi à faire match nul, deux buts partout. Et ben là, il n'y a pas eu du tout la même opposition déjà, et puis ni le même résultat non plus, parce que Erling Haaland a effectivement été c'était le héros de cette rencontre-là. C'était un petit peu le Haaland show, parce qu'on était tous là pour le voir, justement, pour voir si après les quelques occasions manquées au Community Shield le week-end dernier contre Liverpool, on était un petit peu resté sur notre faim, forcément, parce que Darwin Núñez lui avait marqué et Haaland s'était créé des occasions. Il n'avait pas été mauvais non plus, mais c'est vrai que les Anglais qui aiment beaucoup critiquer très vite, en tout cas, surtout les nouvelles recrues et surtout les joueurs avec un grand nom comme celui d'Haaland, avaient critiqué assez vite finalement. Donc on était tous là pour le voir, pour voir ce que ça allait donner. Et sincèrement, on n'a pas été déçus. Il a marqué deux buts, le premier sur penalty, mais un penalty qu'il va chercher lui-même avec un très bon appel en profondeur. Et cette fois, Gundogan lui met un très bon ballon, ce qu'on n'avait pas forcément vu contre Liverpool il y a une semaine. Et puis surtout, le plus beau, c'est le deuxième, parce que la relation De Bruyne-Haaland, on la voit déjà là, très tôt dans la saison, c'est que c'en est que les prémices. Et pourtant, l'appel est fantastique, le ballon en profondeur de De Bruyne est fantastique, la finition est parfaite d'Haaland. Et comme le disent les Anglais aujourd'hui, je pense qu'on va très souvent peut-être voir cette combinaison-là et ce duo-là sur les terrains de Première Ligue et de Ligue des Champions. Donc, très positif pour Haaland, bien sûr, pour City, même si Guardiola l'a rappelé très justement à la fin du match en disant, écoutez, le week-end dernier, vous m'avez dit qu'il était bidon, et puis là, vous me faites croire que c'est déjà Thierry Henry et le Brésilien Ronaldo. Donc, que tout le monde se calme, et il avait tout à fait raison, même si je pense qu'Haaland aurait pu marquer 3 ou 4 buts facilement contre West Ham. Son père, Alfie, avait fait le voyage avec toute la famille, il était dans les tribunes avec les supporters de City.
Julien, il a dit en zone mixte qu'il était déçu parce qu'il a eu une troisième grosse occasion sur l'inservice de Gundogan et qu'il n'était pas satisfait.
Il avait été shitty.
Ouais.
Ouais, il a dit merdique, et puis après il a dit putain en plus pour à chaque fois on le dit, donc Sky a dû biper les gros mots, forcément à cette heure-là en plus. Mais ce qui était marrant, c'est qu'à la fin du match, on a donc eu les supporters de City qui avaient fait le déplacement, donc les 3000, enfin ils étaient 2500 je crois, sur la City, qui ont chanté pour Alfie Haaland, donc le papa d'Erling, en plus d'Erling, donc puisque les deux étaient un sur le terrain et l'autre dans les tribunes. Donc c'est vrai que c'était assez amusant, et je pense qu'on l'a dit souvent avec Polo, enfin de toute façon t'as pas besoin d'être un devin pour le savoir, mais c'est à mon avis le début d'une très grande aventure et très belle histoire d'Erling Haaland et de Manchester City et en Première Ligue.
Polo, Julien, le Bayern qui joue sans neuf, City qui joue avec un neuf, c'est un peu le monde à l'envers, non?
Ah, je trouve ça exceptionnel. D'ailleurs, il va falloir suivre ça tactiquement parlant, parce que alors la première chose, c'est que moi j'ai beaucoup rigolé quand on a critiqué le cyborg norvégien après son Community Shield à moitié raté. J'ai regardé la rencontre contre West Ham, et ce qui est marrant, c'est que le deuxième but arrive au moment où West Ham tente de pousser un petit peu. C'est-à-dire que c'est pas un but où Manchester, à ce moment-là, où Manchester City domine complètement. Ça part de l'arrière, si je me rappelle bien. Et ensuite De Bruyne, évidemment, c'est le West Ham est sur le reculoir à ce moment-là. Et donc c'est là où on voit toute la palette du Norvégien. C'est-à-dire c'est pas juste l'attaquant de surface. C'est là où on va être très très surpris, y compris, je pense, en Première Ligue, où ça va être le premier des défenseurs pour l'équipe de Manchester City et celui qui va attendre le ballon à la fin de l'action pour finir pour marquer le but. Et c'est là où on se rend compte du volume du Norvégien. C'est pas juste le buteur qu'on nous présente, évidemment, avec ses statistiques. Résumer le Norvégien à ses statistiques, je pense que c'est l'une des plus grosses erreurs qu'on fait par rapport à ce joueur, parce que lorsqu'on voit son volume de jeu, la façon dont il court, alors évidemment la condition sine qua non pour qu'il bosse pour l'équipe, c'est que le ballon lui arrive quand lui il doit marquer, hein. C'est ça aussi pour ça que j'étais pas tout à fait d'accord sur le fait que est-ce que le Norvégien pouvait s'adapter à Manchester City quand t'as un joueur
hashtag de cette qualité-là. Grealish, Polo. Hashtag Jack Grealish, hein, c'est-à-dire que Jack Grealish qui touche 18 fois le ballon avant de lui donner, il va falloir qu'il la donne un peu plus rapidement.
Mais ça va être c'est ça qui est assez impressionnant. C'est pour ça que moi j'étais pas tout à fait d'accord sur le canton lorsqu'on disait que est-ce que le Norvégien devait s'adapter à Pep Guardiola et ceci cela. Non, je pense que c'est du win-win sur cette question-là et qu'ils sont assez intelligents tous les deux pour ça, pour faire que c'est encore mieux pour Manchester City. Et tu as tout à fait raison, le fait que qu'on ait maintenant un neuf pour quelqu'un qui a cherché à promouvoir le faux neuf pendant des années, notamment à Barcelone, est assez extraordinaire quand le Bayern par exemple eux seraient peut-être en train de passer comme un faux neuf, mais en tout cas n'oublions pas que le mercato n'est pas fini non plus. J'ai du mal à croire quand même que le Bayern n'aille pas chercher un vrai neuf d'ici la fin du mercato.
Au-delà d'Haaland, Julien, ce qui est étonnant sur ce match-là, je ne sais pas si tu t'es fait la même remarque, c'est surtout le rôle de Walker qui jouait presque dans le double pivot avec Rodri avec le ballon, et j'ai trouvé que Gundogan et Kevin De Bruyne étaient très très haut et très très proches de Erling Haaland, et on l'avait vu avec le Bayern, Guardiola le faisait souvent avec Philippe Lahm, mais là avec Manchester City c'est quelque chose d'assez frappant, parce que c'est la pointe. Walker d'habitude il essaye d'utiliser la profondeur pour couvrir Ruben Dias notamment, et là il était vraiment vraiment dans le cœur du jeu. Est-ce que je sais pas s'il s'en explique en conférence de presse, mais je trouve que ça a été l'une des clés pour gagner cette rencontre, parce que on l'a vu sur le premier but, c'est Gundogan, sur le deuxième c'est Kevin De Bruyne qui le lance parfaitement, et c'était une chose assez intéressante à suivre pendant le match.
Ouais, mais Cancelo aussi, c'était, enfin je trouve qu'on avait d'ailleurs essayé de,
des fois on avait un 2 milieu relayeur avec Cancelo ou Walker devant Rodri.
Ouais, alors après Gundogan ça joue quand même un peu plus haut, mais après c'est un petit peu au retour finalement de quand Pep avait Agüero, et je pense qu'il s'en est un petit peu écarté quand il n'avait pas de vrai numéro 9, et maintenant avec un vrai numéro 9, tu peux effectivement refaire jouer tes latéraux un petit peu plus à l'intérieur du jeu, au corps du jeu, comme il avait pu le faire à un moment, et effectivement changer un petit peu comment tu joues. Moi je suis un peu plus inquiet pour Riyad Mahrez par exemple, pour revenir sur Jack Grealish effectivement qui touche beaucoup le ballon avant de la donner à Haaland. Je me demande si à un moment le fait que Riyad était sur le banc et qu'un Phil Foden par exemple qui peut lâcher le ballon plus rapidement, on l'a vu le faire, on l'a vu le chercher beaucoup à Haaland aussi dans la rencontre d'hier. Si c'est peut-être aussi ce qu'on verra un petit peu plus cette saison, je sais pas.
Ça va tourner énormément.
Ça va tourner, mais après il y aura forcément des joueurs qui s'entendront beaucoup mieux et qui joueront beaucoup mieux avec Haaland que d'autres. C'est obligatoire, donc à voir ce que ça va donner, mais.
Il y a le petit Julian Alvarez qui peut jouer sur un côté aussi, donc il va avoir. Il était rentré contre
lui,
Liverpool
pas
comme
trop,
ça.
Trop de relations entre lui et Haaland par rapport, tu vois, à un créateur plus, mais j'étais très déçu par West Ham en revanche, parce que par exemple, le deuxième but, aussi beau qu'il soit dans sa conception et dans la relation, encore une fois, entre De Bruyne et Haaland, mais tu peux pas donner autant de temps à Rodri. Rodri, il a même pas besoin de regarder autour de lui avant de recevoir le ballon. Il sait très bien qu'il est tout seul. Il attend de se retourner, de donner le ballon à De Bruyne, qui lui aussi est tout seul. Il y a personne vient, personne n'est assez agressif pour venir. Pour monter sur le porteur rapidement.
Le pouce Kamaka en deuxième mi-temps là. Wow.
Ah ouais,
bon courage,
si
mon pote,
à West Ham, mais
bon courage,
Fulham a fait contre Liverpool, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que West Ham a fait contre City? Il y a une équipe qui a laissé jouer l'adversaire et une autre qui, tu vois, donc.
Justement, Julien, on parlait du Bayern qui avait déjà pris les rênes de la boulie. Pour ce qui est de l'APL, le principal adversaire a priori, en tout cas l'un des principaux de City, ce sera Liverpool qui a déjà laissé échapper des points. Alors oui, Darwin Núñez continue de donner satisfaction. Reste que ils se sont quand même bien fait bousculer.
Ouais, complètement. Très surprenant d'ailleurs, parce que
très belle équipe,
ils avaient été tellement bons contre City qu'on s'attendait vraiment pas à ça à Fulham, même si on se disait que Fulham allait sûrement en tout cas pour le premier quart d'heure, première demi-heure, que Fulham allait vouloir se battre, allait vouloir être agressif. C'était des promus, c'est à domicile, c'est un match contre Liverpool au moins, etc. Donc voilà. Mais on disait qu'à un moment, quand même, c'était pas possible que Liverpool passe au travers comme ils l'ont fait finalement en première période. C'était assez incroyable de les voir aussi apathiques, sans intensité, sans idée. La première période de Mo Salah, en termes d'être anonyme et complètement incroyable. Mais ça veut dire que je crois qu'il ne touche pas le ballon dans la surface adverse quasiment. Non. C'est hallucinant. Et donc que Fulham ait réussi à faire déjouer autant Liverpool si tôt dans la saison, alors qu'on les avait vus très bons encore une fois contre City il y a une semaine avant, le week-end d'avant. C'est vrai que ça a surpris beaucoup de monde. Il a fallu que Darwin entre et soit vraiment le sauveur avec un but, même si le but, bon, il a beaucoup de réussite. Et après sa passe décisive, elle aussi a beaucoup de réussite pour ça là. Mais quand même, on a vu un Van Dijk très en difficulté face à Mitrovic, qui est pourtant qui est un très bon attaquant. Mais
bah, il a concédé un penalty. Van Dijk, on a l'impression qu'il se fait effacer d'une manière dont on l'a jamais vu se faire effacer.
Après Mitrovic, c'est la première fois. Mitrovic sur son dribble, il est un peu bizarre son dribble. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Van Dijk a été surpris par le côté un peu rustre de Mitrovic sur l'action.
C'est la première fois que Van Dijk en première ligue se fait dribbler comme une faute comme ça dans la surface. Donc c'était vraiment inhabituel. On a vu un Trent Alexander-Arnold qui fait une erreur sur le premier but dans son marquage et comment il a défendu sur Mitrovic, même si dans le jeu aérien il n'y a pas photo non plus.
Au milieu de terrain surtout, Julien, parce que Thiago Alcantara, il a été en grande difficulté et je trouve que Palinha côté Fulham a fait un super match. Le Portugais, au duel, il a été très bon.
Ouais, très dur au duel, il a très bien lu le jeu dans les interceptions, il a cassé beaucoup d'attaques de Liverpool et ce qu'on craignait finalement le plus aussi, Walid, c'est que Thiago est déjà blessé. Et ça veut dire que dans des positions où t'es pas allé recruter cet été parce que bah t'as mis beaucoup d'argent sur Darwin et qu'il te restait plus rien après pour aller par exemple essayer de chercher, je sais pas moi, un Tchouaméni ou même un Bissouma, et bah tu t'es quand même laissé assez léger finalement, t'as que des jeunes comme Harvey Elliott
qui a fait une bonne entrée quand même. Carvalho. Mais ça sera pas suffisant, je pense. Mais il a fait une bonne entrée.
Bonjour, mais voilà, à un moment, à part Fabinho, il te reste Anderson. Vous savez à quel point je suis pas un grand fan de Jordan Anderson, surtout à son âge maintenant.
Bon match a été
compliqué. Et moi, je suis un petit peu inquiet pour le milieu de terrain de Liverpool.
Merci beaucoup, Julien. On revient te voir dans un instant. On va marquer une toute petite pause et on va aller en Italie. Tiens, on parlait des grandes d'Europe, des très grandes d'Europe. Liverpool, Manchester City, on a parlé du Bayern. On va aller se pencher sur le cas de la Juve qui prépare sa saison de manière délicate. C'est le moins qu'on puisse dire. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.